donc il nous aide aussi beaucoup à qu'ils soutiennent le film et communiquent aussi beaucoup autour de la sortie, quoi. Voilà.
Et je le répète, ce sont deux films extrêmement complémentaires et extrêmement intéressants et à mes yeux très importants à voir, parce que ça montre quelque chose de complètement différent, ça n'a aucun rapport. En plus de ça, les gens confondent souvent la première et la seconde intifada, et c'est deux choses aussi complètement différentes.
Et je voulais dire aussi que ouais, donc ce programme est co-distribué par donc La Luna, Don Quichotte Film et le Grec aussi
qui ont produit le film.
Et toi, tu es attachée de presse où alors ?
Moi, je suis indépendante.
C'est une fille indépendante, c'est parfait, ça nous va très bien. On est sur Radio Libertaire. Bonjour l'indépendance. La semaine prochaine, on va. Merci pour les musiques, hein, ouais. Mohamed. Tu vas m'en faire découvrir d'autres, j'espère. Alors, la semaine prochaine, nous parlerons de Sœurs volées. C'est un bouquin qui a été fait, une enquête sur un féminicide au Canada d'Emmanuel Walter. C'est publié chez Lux Éditeur. Et puis, nous parlerons de trois films. D'où vient le vent de Amel Gellati, L'aventure rêvée de Valeska Grisbar et Le triangle d'or d'Hélène Rosley-Ruiz. Voilà, très très bonne semaine. Super. Et surtout, eh bien, tenez bon.
Ouais.
Merci.
Merci. Merci beaucoup.
Radio Libertaire, 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Bonjour, nous sommes ensemble pour une heure et demie, c'est le temps pour que vos reins filtrent environ 11 litres de sang. Une heure et demie, c'est le temps que les chasseurs, pour la régulation évidemment, butent 80 renards en France. Une heure et demie, c'est le temps que soient vendus 70 000 livres en France, dont 11 000 bandes dessinées. C'est également le temps pour qu'il y ait, de par le monde, 6 exécutions publiques du Boléro de Ravel. C'est le temps, 1h30 d'émission, pour que l'éducation nationale, en salaire, en investissements divers, dépense 11 millions d'euros. Et c'est le temps que soient vendus 218 000 paquets de cigarettes officiellement en France. Et 1h30, c'est aussi le temps que soient pêchés 160 millions de poissons qui, souhaitons-le quand même, seront consommés. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, bonjour. Et évidemment, quelques petits « Je me souviens ». Je me souviens du prophète fou dans l'Étoile mystérieuse de Tintin, dansant avec son gong ou tambourin sur la chaussée, prédisant la fin du monde, car la température a monté de 10 degrés. Je me souviens d'avoir, comme objecteur de conscience, bossé, entre autres, une après-midi par semaine pour Métrolire, une initiative de la Fédération Léo Lagrange avec deux bibliothèques implantées dans des entrées de métro et même des kiosques de prêt, installés dans des bulles en milieu de quai de quelques stations telles que République, où les usagers pouvaient passer commande le matin auprès d'Alain, Christophe, Bruno ou Alexis et récupérer le soir le bouquin à rendre sous quinzaine. Je me souviens que la grâce présidentielle du 14 juillet ne s'applique pas aux violeurs, aux trafiquants de drogue, aux coupables d'agressions sur enfants ou d'agressions sur les représentants de l'ordre. Je me souviens que j'ai connu un Duchesne, un Dupin, habité près d'une famille d'Utilleul, côtoyé plusieurs Dufresne et des Delorme. Je me souviens que j'ai croisé un De Tailly et oh combien de Buissons. Je me souviens que j'ai discuté avec un Desforé, un Desjardins, un Descharmes, tous trois d'ailleurs québécois. Je me souviens que j'ai fait mes courses chez un Delépine et un Desormeaux. Je ne compte pas les Dubois et des Landes. J'ai aimé une Desrosiers, une Delahaye. J'ai entendu parler d'un Desplanches et d'ailleurs comme vous aussi entendu parler d'un Dupetron. J'ai fait travailler un pommier, un poirier, trois oliviers, le patronyme, pas le prénom. Paraît même que des arbres se cachent chez les Deleuze, Dequesnois et Castagnier. Je me souviens que si Jean Jaurès sut, Jean Jaurès pas velu. Ou un truc comme ça. Je me souviens des bornes rouges en fonte dans les rues de Paris, pour prévenir la caserne de pompiers la plus proche en cas d'incendie, avec la mention « briser la glace ». Je me souviens que Sylvie était prof de piano au conservatoire de la ville, mais aussi employée par les pompes funèbres pour les enterrements. Elle chantait, ça pouvait être du chant lyrique, mais aussi du chant traditionnel ou de la variété, après une réunion avec la famille, et parfois, ceux qui la connaissaient lui avait fait passer le message avant leur mort. Je me souviens de Dany le Prince. C'est Roland Agré qui m'en avait parlé à la fin du siècle dernier. Dany le Prince jugé en 94, clamant son innocence, réclamant une révision et obtenant seulement maintenant une annulation et un nouveau procès. Je me souviens que Jean-Philippe bossait à la cafétéria du centre commercial. Il venait en voiture, on le voyait passer en salle toutes les demi-heures pour balayer, essuyer les tables et remettre dans le rack les plateaux oubliés par les clients. Quand il a été licencié, il a continué à venir manger le midi. Il arrivait en voiture, se servait au self et passait l'après-midi sur place. Par la suite, on l'a vu arriver à vélo, entrer directement par la sortie, s'asseoir à une table où les clients l'avaient laissé un plateau, histoire de donner le change et de se faire passer pour quelqu'un en train de manger. Plus tard encore, on l'a vu arriver à pied, se glisser par la sortie, s'asseoir devant des plateaux oubliés et grignoter ce qu'il restait. Et puis, on a cessé de le voir. Je me souviens que 42 est la réponse à la question fondamentale de l'univers. Ah, et je me souviens aussi qu'on ne sait pas quelle est la question fondamentale de l'univers. Je me souviens que ce soir, l'ami Jean-Daniel Belfond sur Fréquence Protestance reçoit Sand Severino et Lise Cabaret. Ah, je me souviens de rendez-vous à l'avenue Henri Martin si vous passez par la case départ. Payez une amende de 1000 francs ou bien tirez une carte chance. Reculez de 3 cases, vous êtes libéré de prison. Vous avez reçu le 2e prix de beauté. C'est votre anniversaire, chaque joueur doit vous donner une minute. Allez à la gare la plus proche, rendez-vous à la rue de la Paix. Votre immeuble et votre prêt vous rapportent. Vous êtes imposé pour des réparations de voirie 4000 par hôtel machin. Vous avez gagné le prix de mots croisés 10 000. Amende pour excès de vitesse 1500. Payez la note du médecin. Je me souviens de la dernière image de mon père. C'était à l'hôpital. Je revois ça en caméra subjective. Je vois son visage amaigri, mais conscient. Je tends la main, je lui caresse la joue. Ça n'arrivait pas si souvent. Sa barbe pique, comme quand j'étais petit. Il sait que j'ai un train dans une demi-heure, à l'autre bout de la ville. Il sait ce qu'il attend dans la semaine, à l'autre bout de la vie. Il me dit « Tu salueras tes deux drôles de ma part. » Il m'a transmis cette habitude de mélanger argot, patois, mots inventés. Le couloir est blanc, l'infirmière est floue. Je prends l'escalier plutôt que l'ascenseur. Je ne pourrai pas rester immobile. Je me souviens de la dernière image de ma mère. Curieusement, là, c'est un plan reconstitué, comme dans les rêves ou les films. Ma mère est de dos et occupe un quart de l'image. On la reconnaît à son gilet bleu, sa silhouette frêle et sa touffe de cheveux blancs, gris. Face à elle, dans le champ, on me voit, moi, ainsi que ma sœur, avançant vers la sortie de la salle commune de l'EHPAD. Je lui fais signe de la main, moi, je suis déjà flou. Pas seulement à cause de la distance, mais plutôt à cause de sa maladie. Je m'estompe au milieu d'inconnus qu'elle reconnaîtra, ou pas d'ailleurs, comme tous les jours. Je me souviens que Marie-Louise nous avait balancé dans ma famille pendant la guerre. Et ils ont su dire où étaient les maquisards et où se cachaient des juifs. Mais maintenant, tu leur feras jamais avouer où ils vont chercher leur cèpe dans la forêt.
Le soleil s'est levé là-bas derrière Pantin. Ça n'a été qu'un cri dans le petit matin. Il fait beau. Les oiseaux de Paris filent au champ, ventre à ciel. Aux quatre coins de la ville ont porté la nouvelle. Il fait beau. La muette à Pigalle, on se l'est répété. Une bonne nouvelle vraie, ça vaut le coup d'en parler. Il fait beau. Et tout Paris bientôt fredonne obstinément ce refrain de trois mots monotones et charmants. Il fait beau. Tout le monde est content. Le soleil joyeux montant un peu plus haut. En fin de matinée, y a quelque chose de nouveau. Il fait chaud. Ça s'aggrave de rendeur, bientôt nous étouffons. On a un petit peu d'air quand il passe un avion. Il fait chaud. Les femmes sont adorables, comment peuvent-elles ranger dans si peu de tissus, tant de choses à toucher. Il fait chaud. Partout dans les bistrots, on commande de grands verres. On a beau être content, on se fait monter de la bière. Il fait chaud, il faut pas s'en faire. Délaissant avant l'heure son tori de bureau, l'ami Gaston chez lui est rentré bien trop tôt. Il fait chaud. Il a trouvé sa femme seule avec un monsieur, à part un drap dessus, il n'avait rien sur eux. Il fait chaud. Gaston restait sans voix, sa femme ne disait rien. Alors le type a dit, y'a comme ça qu'on est bien. Il fait chaud. Vous croyez, dit Gaston, je peux vous l'affirmer. Gaston s'est dévêtu et tout s'est arrangé. Il fait chaud, on peut pas se fâcher. Enfin c'est le soir, assis devant leur maison. Les concierges déclarent avec satisfaction. Il fait bon. Dans le ciel assombri, les hirondelles font, poussant des petits cris, une partie de saut de moucheron. Il fait bon. Puis le soleil pressé disparaît vers Saint-Cloud. Là d'autres choses à faire, faut qu'il en mette un coup. Il fait doux. Là pas de temps à perdre, s'il veut revenir demain, on compte sur lui de bonheur. Là-bas derrière Pantin, il fera chaud. Ça nous plaira bien.
« Il fait beau, il fait chaud même. C'est une chanson qui devient de plus en plus d'actualité. C'est ce qu'on appelle la non-écologie punitive, parce que effectivement, avec le système économique galopant, il faut qu'on se prépare à des températures élevées. Alors cette chanson, Il fait chaud, est due à Jacques Grélot. Elle fut interprétée par les frères Jacques, elle fut interprétée par Marc et André. Elle fut chantée également dans un grand échiquier, je crois, par Tonton Georges, Georges Brassens, par Guy Béard. C'est par Guy Béard, moi, que je l'avais connu avec le petit côté coquin. Ils se sont retrouvés l'un sur l'autre parce qu'il faisait chaud. Et là, c'est la version de Justine Jérémy sur un album sorti il y a de cela environ un an. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. On est le premier samedi du mois, et quand il y a un premier samedi du mois, ce qui tombe à peu près tous les mois, ces textes, ces musiques, ces chansons. Donc j'aperçois autour de la table Laurent, j'aperçois la compagnie Joël Zariel. On réussit à tasser les trois en un seul mot. Ici les studios, à vous les studios.
Ici Paris, bonjour. Comme nous avons l'âge et que c'est l'heure, notre loge de la radio est ouverte. Voilà. Donc, Patrick Denis sera de la fête, et ainsi que Philippe Forcioli.
Excusez-moi, je ressors d'une extinction de voix, donc j'espère que ça va marcher, que je serai assez audible. Alors, ce sera les poèmes à dire choisis par Daniel Gélin, avec un poème de Paul Claudel et suivi de quelques pensées de Pierre Perret.
Alors, moi, je portais un article écrit de moi-même sur la Coupe du monde de football 2026 et ses problèmes institutionnels et politiques à l'intérieur, et une observation sur la démocratie américaine et sur ses contradictions le jour des 250 années de l'indépendance des États-Unis d'Amérique.
Et bonjour Laurent, donc là ce sera 40 minutes autour de Pierre Barou pour un livre écrit par l'un de ses enfants, c'est Benjamin Barou, et le livre a pour titre « On n'arrête pas une chanson », chanson et poème inédit 1950-1999, préface Claude Lelouch et préambule de Georges Brassens.
Alors, on commence par Patrick Denis. Une église. Vieille femme au trait lourd, assise au mitant d'une ville en creux, près d'une rivière indécise, qui louvoie dans la Marne comme une pensée tordue. Les maisons ventrues y soulagent leurs vessies gonflées aux verges impudiques des égouts. L'hiver, en grise pantomime, s'offusque des cris enfantins, irrespectueux au miroir des cours. Traînées de brume ondulante comme des bayadères dans la lumière pulsimène. Chiens de collier appréhendant leur maître retranchés derrière les carreaux vérolés de givre. Rêve en autarcie des fillettes dans les chambres fanées devant le calendrier des postes. Miracle des fumées subtiles au grand pot-au-feu des lessives. Le métronome, froid d'un clocher, rythme le cours des villas. Le grenier du vieux séminaire s'étale à la devanture d'un bouquiniste, exilé sans doute en retrait des quais de Paris. La mémoire du lieu s'abrite sous la houppelande d'une vieille dévote qui se hâte à petits pas serrés vers la confesse, battée de péchés gadgets. Râle des camions surchargés dans la rue principale, dont la formidable colère augmente à chaque reprise. Fournils de boulanges qui lâchent leur vapeur dans l'air froid, comme des soupiraux de l'enfer. Chats étendus dans les vitrines qui narguent de leur paresse la débauche des ouvriers. La nuit tombe brusquement des collines comme du pétrole dans un loto noir. On se barre les portes des maisons sur la quotidienneté des retrouvailles et de l'amour qui se fera peut-être.
Senteur de lilas, femme féline aux abois. Bordel le dodo, ré mi fa sol la, jalousie tirée déjà. Deux doigts de porto, sur coin de sofa, bâton dansant de là-bas. Lukuma gogo, pays Sinatra, fallait pas. Y'a pas de mal à ça, y'a pas de mal à ça, me répond la drôle de fille. C'est comme ça mon gars, ma culture à moi, sombre et rose et menti. Prends où tu laisses, me dit la princesse de ce caravansérail. C'est mon cinéma, ça te plaît ou pas? Si c'est non, faut que tu t'en ailles. Alchimie secrète, drôle de cigarette qui ne porte pas de nom. Robe désuète, mauve collerette pour une fleur de la passion. Décidé de là, déridé je crois, j'engage conversation. Lorsque j'aperçois le Kama Sutra posé sur le guéridon. Y'a pas de mal à ça, y'a pas de mal à ça, me répond la drôle de fille. Le plaisir mon gars, ça n'empêche pas de fonder une famille. Tu prends ou tu laisses, me dit la princesse de ce caravansérail. C'est mon cinéma, ça te plaît ou pas? Si c'est non, faut que tu t'en ailles. Bien les fins de semaine. Lundi le cœur lourd, fini le velours, quand la vague nous ramène. Face au quotidien, occupé à rien, devant un calendrier. Le petit sous-fifre, qu'à horreur des chiffres, soudain se prend à compter. Y'a pas de mal à ça, y'a pas de mal à ça, je pense à ma drôle de fille. Je tisse le temps comme un verre à soie, s'enroule dans sa coquille. Ce matin sans cesse, bonheur et détresse, je suis pas au boulot, je baille. Tournant de guerre lasse, la mine un peu grasse d'un crayon qui lui se taille. Des mots en wagon sur la voie ferrée, chemin de fer du papier quadrillé. C'est comme ça que je m'en vais retrouver ma drôle de fille, ma drôle de fille, ma drôle de fille.
Patrick Denis sur un album qui date de 1987. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques sur l'antenne de Radio Libertaire. J'ai réussi à installer dans le studio un dispositif qui fait que les chaises tournent doucement autour de la table et depuis la régie, sous le nez de mes collaborateurs, j'agite la queue du Mickey et c'est celui qui attrape la queue du Mickey qui gagne un tour gratuit ou qui peut dire un texte.
Merde, j'ai loupé. À toi, Elsa.
Ok. Alors, Daniel Gélin a choisi le poème « Derrière eux » de Paul Claudel. On se réunira derrière eux, le curé d'Ars. Le sang injustement répandu est long à pénétrer dans la terre. C'est la rosée des cieux innocente qui est pour elle et la large pluie salutaire qui ressort en moisson plantureuse, fourrage et blé, orgueil de l'esbet et du brabant. Plus douce encore à ses veines toutefois quand il vient s'y mêler, s'il faut du sang, l'âme rouge dans elle de ses fils et la libation comme du lait et comme du vin du soldat qui pour la défendre est tombé les armes à la main. Solennel donation, définitif amour dans le labour et dans les teules, glaise réhumectée de l'antique Adam par quoi la terre et l'homme redeviennent comme un seul. Mais cette conscription est le marquage à la craie comme des bêtes pour la mort des enfants, des femmes et des vieillards, cet entassement pêle-mêle dans un coin, et tout à coup écumeuse, et toute chaude encore de vie, et fumante par tous les échenaux de l'abattoir, comme la grappe sous le madrier, cette sortie impétueuse de sang noir, cette vendange affreuse dont on la barbouille et qu'on lui fait boire de force, sont des choses dont la terre a horreur, et une œuvre au rebours d'elle-même et l'amorce. De cette coupe lentement dans son cœur qui remonte vers vous, meurtrier, plus profonde et plus large que votre soif. Vous qui l'avez ensemencée, oubliez-vous qu'elle conçoit ? Comme il faut la macération de tout l'hiver et la pensée de trois saisons pour que le grain longuement médité germe et pousse et s'atteste épi, promesse d'une centuple moisson, telle, et plus vous avez enseveli la semence et plus vous l'avez piétinée, l'incoercible fruit qui sort du ventre des assassinés. Roule, fusillarde, jour et nuit, feu de vos pièces, toutes à la fois, tonnez, canon allemand. Que le coup de mortier de 420 vers le ciel, dans une montagne noire de fumée, se décharge comme un volcan. À travers le continuel assaut et la continuelle résistance, troupes marquées pour ne plus revenir, vous n'arriverez pas à détruire le silence. Vous n'arriverez pas à remplacer dans vos cœurs cette voix à jamais qui s'est tue, la bouche sans pardon de ceux que vous avez tués et qui ne parleront plus. Retranche-toi, peuple assiégé, étends tes impassables réseaux de fil de fer. Fossoyeurs de vos propres bataillons, sans relâche, faites vos fosses dans la terre. Ce qui tape jour et nuit dans vos rangs, ce qui sonne joyeusement en face n'est pas tout. Il y a une grande armée sans aucun bruit qui se rassemble derrière vous. Depuis Louvain jusqu'à Rethel, depuis Termonde jusqu'à Nomenie, il y a de la terre mal tassée qui s'agite et une grande tache noire qui s'élargit. Il y a une frontière derrière vous qui se referme plus infranchissable que le Rhin. Écoute, peuple qui est parmi les autres peuples comme Caïn, entends les morts dans ton dos qui revivent. Et dans la nuit, derrière toi, pleine de Dieu, le souffle de la résurrection qui passe sur ton crime populeux. Peuple de sauterelles mangeurs d'hommes, le temps vient que tu seras forcé de reculer. Le vestige que tu as fait dans le sang, pas à pas, le temps vient que tu vas y repasser. Viens avec nous, peuple casqué. Il y a trop de choses entre toi et nous à jamais pour nous en dessaisir. Voici le fleuve sangué de la justice. Voici les bras des innocents autour de toi, inextricables comme des ronces. Ressens la terre sous tes pieds, pleine de mort, qui est molle et qui enfonce. Ce poème est extrait du recueil Poèmes de guerre, édition Gallimard.
Can you help me to just translate? It's just few lines I want to translate to you here. Mm-hmm. You can. It's aujourd'hui, je suis ce que je suis. Nous sommes qui nous sommes, et tout ça, c'est la somme du pollen dont on s'est nourri.
Mm-hmm.
You get it?
Yeah. Thanks. So. Today I am what I am. We are who we are. The flowers of the pollen we feed on. Can you say that in German?
Yeah.
Today I am what I am.
Sure.
We are who we are.
Бог тащи, Бог тащи.
The flowers of the pollen we feed on.
そしてね、すべては僕たちを培ってきた花粉。
Jacques Prévert, Jean Cocteau,
Stenberg,
Joseph Beuys, Tommy Garnier,
Arletty,
Luciano Visconti,
Dan Carell,
Jean Cocteau again.
Who?
Jean Cocteau.
Again.
Henry Miller, Gustav Mahler,
Tsuguji.
Aujourd'hui je suis ce que je suis. Nous sommes qui nous sommes. Et tout ça c'est la somme du pollen dont on s'est.
Jean-Pierre Rive,
Malevich,
Thomas Mann,
Ernst Lubitsch,
Eric Satie,
Tamara.
Aujourd'hui je suis ce que je suis. Nous sommes qui nous sommes. Et tout ça c'est la somme.
C'est sur ce long texte que s'ouvrait en 84, je crois, l'album Le Pollen. Tiens, 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 pourquoi est-ce qu'un Foulquier a appelé son émission après Pollen? Allez savoir. Un album de Pierre Barou. Et ben, Laurent, ici les studios, à vous les studios. Et... Ah non, on n'a pas que du studio, on a un invité par téléphone, c'est ça?
Nous avons un invité par téléphone, il s'appelle Benjamin Barou. Il fait partie de la tribu Barou, qui a eu plusieurs enfants. J'ai donc fait la connaissance très récemment, déjà par téléphone, et puis aussi j'ai rencontré Maya Barou. C'était une soirée assez extraordinaire puisque c'était la projection sur grand écran du documentaire Sarava. Avec des pointures de la bossa nova et avec un film qui a été un tournage qui a été improvisé à l'époque, c'était en 69, mais bon, Benjamin nous redira tout ça. J'ai fait sa connaissance et puis donc Benjamin Barou m'a envoyé des documents assez formidables, nous en avons là qui sont arrivés et je pense qu'il est là en ligne. Bonjour Benjamin Barou.
Bonjour Laurent.
Voilà, très content de te retrouver en direct depuis, je pense, la Vendée, c'est ça? C'est un peu...
Oui, depuis le bocage vendéen.
Le bocage vendéen où Pierre Barou a grandi à partir d'un certain âge. Hein, c'était une période très difficile. Il en a gardé, on dirait, des souvenirs merveilleux, puisque on ressent d'ailleurs dans ses chansons beaucoup cet amour de la nature. Hein, on le ressent très, très puissamment. Et ce qui n'est pas courant dans la chanson française, il faut le dire, qui est souvent une chanson citadine. Et là, nous avons des couleurs, des sensations. Et l'une des plus belles, bien sûr, on le sait, c'est La Bicyclette, qui a été vraiment un succès extraordinaire. Alors, Benjamin Barou est avec nous parce que il a réalisé une anthologie établie par lui-même avec une préface de Claude Lelouch et un préambule de Brassens. Il y a pire quand même. Et ce livre, eh bien, cette anthologie s'appelle « On n'arrête pas une chanson ». Alors, Benjamin, tu as fait un travail assez incroyable de recension. Tu as été chercher dans des cartons parce que tu as été, d'après ce que j'ai bien saisi dans ce livre et dans tous les documents, tu as fait une rencontre un peu tardive mais décisive. C'était un certain cinéaste que tu as croisé à l'angle de l'avenue Poincaré et de la rue Lauriston.
Alors voilà, c'est le livre dont tu parles, Pierre Barou, On n'arrête pas une chanson, et le deuxième ouvrage consacré à mon père et à sa vie et son œuvre, le premier étant Sarava, c'est où l'horizon, qui, comme son nom l'indique, traite plus de l'histoire de Sarava. Et pour réaliser ce livre, que j'ai commencé malheureusement dans le dernier mois de vie de mon père, j'ai pu quand même pas mal travailler avec lui, mais il est parti trop tôt pour que je puisse avoir un témoignage long. Par contre, j'ai récolté énormément de témoignages, et évidemment, il fallait bien que je trouve celui que je recueille celui de Claude Lelouch, puisque Sarava a été créé avec Francis Lay, Claude Lelouch, Fernand Boruso et Pierre Barou. Donc, je sortais de l'entretien avec Francis Lay, qui était vraiment un homme absolument incroyable. Et tellement riche en histoire, et notamment il fait partie de la grande histoire de la chanson française, hein, Francis Lay. Donc c'était passionnant cet entretien. Francis Lay, que je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans, et en sortant de chez Francis, il habitait alors sur la place du Trocadéro, là je tombe effectivement sur Claude Lelouch, tout à fait par hasard, que je n'avais pas vu depuis 20 ans, qui ne me reconnaît pas. Et on est tombé presque nez à nez. Et ça m'a permis de prendre rendez-vous plus vite que je ne le pensais. Malheureusement, un peu trop vite, dans la mesure où on s'est surtout vu à l'enterrement, au funérailles de mon père, donc en 2016. Enfin, les funérailles, c'était en janvier 2017. Et là, je pense que mon père lui manquait beaucoup, évidemment à moi aussi. On s'est retrouvés un peu tous les deux face à face avec ce manque. Et on a commencé à construire quelque chose, notamment retrouver des textes. Car à l'époque, Claude envisageait de faire un film sur mon père, inspiré de sa vie et de son œuvre. Et il m'a dit, écoute, si tu trouves des manuscrits, des brouillons de chansons, des chansons inédites, n'hésite pas. Et j'ai commencé à en chercher, j'en ai trouvé beaucoup, j'en ai trouvé une dizaine, une vingtaine. Et puis le temps a passé et je n'ai cessé d'en trouver. Et c'était comme un dialogue ininterrompu avec mon père disparu. Voilà.
Alors ça m'a fait beaucoup sourire, ça fera sourire beaucoup, parce que évidemment, tu rappelles que ton père écrivait sur tous les supports imaginables, paquets de cigarettes, factures, versos de partition. Et à propos de factures, c'est quand même très drôle, il y a un certain Pierre Louki, qui à l'époque était horloger, et qui écrivait aussi, quand il n'y avait pas de clients dans la boutique, des brouillons, des esquisses de chansons au dos des factures. Alors j'ai trouvé ça tellement drôle, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle, parce que Louki, comme tant d'autres, a pu enregistrer chez Sarava. Alors la liste, elle est impressionnante, surtout aujourd'hui. À l'époque, c'était le cours de l'histoire, mais il y a des noms. Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, Areski Belkacem, qui nous a quittés récemment, Pierre Akendengue, le Gabonais, Jean-Roger Cossimon, qui a fait plusieurs albums, qui est resté très fidèle, Morane, David McNeil, l'accordéoniste extraordinaire Daniel Mill, et un certain Alain Leprest. C'est quand même pas mal, hein, pour un label hors industrie.
Tout à fait. Et pour ne citer que, parce qu'en fait, donc je fais toujours un travail sur l'inventaire, le catalogue Sarava, qui reste en partie occulte, comme mon père était assez brouillon, y compris dans ses textes, mais y compris dans ses productions, je retrouve en permanence des bandes, par exemple des bandes, ce qu'on appelle une bande aveugle, c'est-à-dire sans titre. Et donc c'est la surprise, c'est la pêche miraculeuse. Je retrouve constamment des références qui n'ont pas été numérisées, que ce soit des vinyles, des 45 tours ou des bandes magnétiques. Alors le catalogue, j'espère qu'un jour, j'espère que avant ma mort, j'aurai réussi à mettre à jour le catalogue Sarava, qui est une très belle histoire. Et d'ailleurs le livre Sarava c'est l'horizon, qui est quasiment épuisé, sera réédité d'ici un an chez Le Mont et le Reste. Et je m'en réjouis parce que donc voilà, j'ai pu justement interviewer Pierre Akenenge, qui manquait dans les entretiens. Alfred Panou, que vous n'avez pas cité, mais qui est un artiste incroyable, plutôt du Bénin, mais qui est le premier à avoir enregistré avec Art Ensemble of Chicago. Et d'ailleurs, un des premiers 45 tours de ce qu'on appelle aujourd'hui du slam. Et ce qui était à l'époque juste de la poésie, voilà, musicale, avec quand même le groupe de free jazz. Et c'était en 69, donc j'ai pu avoir son témoignage. Ainsi, et ça je pense que tout le monde va l'apprécier, celui de Joël Favreau, qui lui aussi fait partie de la grande histoire de la chanson française.
Joël Favreau, oui, qui est venu nous voir aussi sur Radio Libertaire. Alors c'est une bonne nouvelle cette réédition, hein. Éditions le Mot et le Reste, ça c'est vraiment, ça fait partie de tout ce travail que vous faites, parce que c'est... c'est un peu votre mission, hein, finalement.
Tout à fait. Et ça l'a été pendant longtemps lorsque je travaillais en tant que qu'employé, que salarié aux éditions Sarava. C'était entre 1994 et 2009. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes sur la mise à jour du catalogue, sur le... sur l'iconographie, y compris sur le travail sur Pierre Barou lui-même, qui était souvent méconnu en tant qu'auteur. C'est-à-dire qu'on le connaissait pour Un homme et une femme, La bicyclette, et on le connaissait beaucoup moins pour tous les autres albums et pour les centaines de chansons qu'il a écrites. Donc c'est dès les années 90 que j'ai commencé à essayer de dénouer le message sur mon père. Et effectivement, la rencontre avec Pierre Louki, pour moi, a été décisive, parce que c'était le fait de rencontrer un très grand monsieur de la chanson, en plus un personnage formidable, avec qui je pouvais communiquer, et qui n'était pas mon père, hein, parce que c'est bien de travailler avec son père, mais c'est bien aussi d'être passionné par quelqu'un d'autre. Et Pierre Louki, moi, j'étais tellement heureux de partager avec lui, d'être dans son intimité, et ses histoires sur Georges Brassens... Alors voilà, Pierre Louki m'a pris par la main, m'a vraiment permis de rentrer un peu plus profondément dans la chanson française.
Alors je vais vous donner une bonne nouvelle, je connais quelqu'un qui vient ici, que j'invite à me remplacer quelquefois, 2-3 fois par an, c'est un historien de la chanson, il s'appelle Daniel Delgado, et il est en train depuis quelques années de patiemment réunir les éléments pour un livre autour de Pierre Louki, qu'il a bien connu, qu'il a approché, beaucoup, très souvent, et il a des documents assez incroyables. Moi-même, j'ai connu Georges Varenne, et je suis allé à son domicile, et qu'est-ce que j'ai vu à son domicile ? J'ai vu les pipes en bruyère qui avaient appartenu à Brassens, et j'ai vu surtout les dictionnaires littrés en cuir, grand format, sur lesquels travaillait Brassens. Alors c'est vrai que ces objets m'ont complètement bouleversé, parce que j'ai eu le bonheur d'être ami avec Georges Varenne, qui est venu, et il est donc venu dans une émission il y a 22 ans, et la deuxième heure de cette émission, c'était Pierre Barou, donc j'ai pour vous une heure de Pierre Barou sur Radio Libertaire le 8 novembre 2012. Voilà, ça va s'ajouter à la collection. Voilà, donc ça fait partie. Et oui, ça fait partie des belles surprises de cette émission qui avait été créée par Marlène Bouvier, qui nous a redonné le flambeau. Et cette émission, maintenant, elle existe toujours tous les jeudis sur Radio Libertaire autour de la chanson. Alors voilà, Pierre Barou, On n'arrête pas une chanson, c'est édité chez un éditeur qui s'appelle Le Bord de l'eau, c'est donc dans le sud-ouest de la France. La collection s'appelle, un titre que j'aime beaucoup, Le Miroir aux chansons. Et le livre m'a été envoyé par quelqu'un qui m'estime beaucoup et que j'estime beaucoup et que nous estimons beaucoup, c'est Jean-Paul Liégeois. J'ai demandé à Jean-Paul s'il pouvait nous appeler, là il ne le peut pas. Mais en tout cas, il est très heureux de savoir que ces 40 minutes d'émission sont consacrées à ce projet qu'il a vraiment voulu.
et qui l'a porté. C'est-à-dire que je suis allé voir Jean-Paul il y a un an et demi, que je n'avais pas vu depuis 10 ans, en lui disant, voilà, j'ai collecté des documents incroyables et qui racontent le parcours, l'itinéraire de mon père, et surtout son cheminement artistique. Je voudrais en faire quelque chose, et on s'est rencontrés à Paris. J'avais plutôt un projet de livre d'art, car ces documents sont à la fois, je trouve, en tous les cas, très très beaux, mais également très beaux graphiquement. Voilà. Et donc le graphisme m'intéressait. Je mélangeais ça avec des photos que j'ai retrouvées aussi. Et Jean-Paul m'a dit, écoute, livre d'art, c'est très cher, mais je te propose qu'on construise ensemble. Donc c'est bon. C'est en ce sens-là que j'ai dit qu'il a porté le projet. Un livre avec seulement les poèmes et les chansons. Voilà.
Alors Benjamin, cette émission, c'est une émission qui m'accueille, qui accueille ma séquence, hein, depuis une dizaine d'années. Et le pilote, le créateur, que j'appelle le grand timonier, c'est Nicolas Choquet, que je remercie toujours. Mmh. Alors je fais un signe à Nicolas, qui est un très très grand connaisseur en matière de chansons. Alors si une idée de question lui vient à l'esprit... là, il me fait non, mais voilà, il est tellement modeste, mais bon, voilà, il est particulièrement content de ce sujet. Et c'est lui, d'ailleurs, qui réalise hein, cette émission, qui la façonne, et qui a donc trouvé Pollen, justement, pour qui était diffusé avant votre appel. Alors, je pense qu'on va vous garder en ligne. Le temps d'écouter, nous avons accordéon, je pense. Eh bien, on va écouter accordéon. Vous pouvez rester en ligne et puis, à tout de suite, Benjamin.
À tout de suite.
Passant au chapeau triste, regarde l'accordéoniste et vois ses 10 doigts qui tricotent pour toi ce pullover de notes. Dans les bistrots sur les gondoles, du lyrisme à la gaudriole, de la romance au tintamarre, pour ceux qui rêvent ou qui se marrent. Roi du guidon, petite reine, rive du Don ou de la Seine, tango, salon, des bars, des bouges, partout où l'on flambe, où ça bouge. Frévo, baillon, le blues, le jazz, cœur des chansons, il tangue, il jase, plissé comme jupe de fille, il attend au bout de ses trilles. Piano en forme d'arc-en-ciel, un vague retour des hirondelles, souvent l'on croit tourner la page, rock et synthé dans les parages. De loin il revient, il se glisse, l'enfance un parfum de réglisse, au vu, au fond de sa musette. Refrain, flonflon du bal, musette. Trace magique, cabane, gardons la belle équipe. Dans le giron des belles images, nous espérons de beaux voyages. La beauté du mot crépuscule, rêve éperdu qui se bouscule. L'été, la pluie, le chèvrefeuille, il les aspire et les effeuille. Souffle fécond, tout ce qu'il offre, Baba, prénom, Ali, ton coffre, n'est qu'illusion face aux tendresses d'un vieux lion dont les richesses, à l'abandon de nos partages, loin des néons, du maquillage, l'accordéon offre le gage de ces chansons qui sont sans âge. Thank you. plante d'espérance. Il se peut qu'il soit le sésame qui ouvre le chemin de l'âme. Les ports, les ponts, les quais de gare, l'accordéon comble l'écart. Il fait le don d'un autre part, glisse un pardon dans les regards. Ce tourbillon de nacre bleu, c'est des boutons pas contagieux. Plie ton veston, oublie les patins, découle le nom de ta cravate. Ce fanfaron réduit l'espace, là dans la ronde où le temps passe. Bulle de savon ou fil d'Ariane, du nord ils font sur la Louisiane. Dans le sillon de l'anche libre, les émotions tissent leurs fibres. La beauté du mot crépuscule, rêve éperdu qui se bouscule.
Extrait du tout récent album de Dominique Kravik et Les Primitifs du Futur. Dominique qui était dans ce studio il y a de cela 15 jours dans le cadre de Bulle Noire. L'album aux 78 intervenants ou quelque chose comme ça. Parmi les intervenants sur ce morceau, Sanseverino et Claire Elzière. Mais Laurent Benjamin, il va falloir m'expliquer quel rapport avec Pierre Barou.
Quel rapport avec Pierre Barou? Le morceau Accordéon a été écrit par Alain Leprest et Pierre Barou. C'est un texte croisé.
Voilà la réponse de Benjamin au questionnement légitime de Nicolas.
Alors, à reconnaître la plume d'Alain Leprest et celle de Pierre Barou. Bon, moi, j'y arrive, bien sûr, mais...
C'est pas évident, mais bon,
non.
En tout cas, c'est pas évident, c'est vraiment un exemple. Et puis surtout, là, cette harmonie entre les trois timbres de voix, les trois styles, c'est une très très belle réussite. Hein. C'est une belle surprise. Moi, je l'ai découverte, grâce à vous, Benjamin. Alors Leprest, est-ce que vous l'avez croisé, Leprest?
Alors j'ai eu la grande chance d'assister à l'enregistrement de l'album Voce a Mano, donc le duo Alain Leprest et Richard Galliano. En 1992, qui a été vraiment la relance du label Sarava, je dirais 15 ans après la grande période de Montmartre. C'est-à-dire que cet album est pour moi absolument formidable et représente complètement l'esprit Sarava. Et Alain Leprest était donc formidable, adorable. Au studio Chauve-Souris, donc c'est des souvenirs, j'avais 22 ans, c'était des souvenirs très importants pour moi. Puis Richard Galliano, alors comme à l'époque j'étais plus jazz que chanson, c'était très 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 impressionné par Richard Galliano, vous pourrez le comprendre, voilà, et y compris par Alain Leprest.
Oui, Galliano qui a tellement fait pour cet instrument, qui a travaillé avec Nougaro et qui a fait des grandes choses, y compris aussi dans le classique. Hein, il s'est un petit peu aventuré dans le classique aussi, Galliano. Alors un grand monsieur, un très très grand monsieur, vraiment, il faut le saluer. Et puis là, j'étais content qu'on entende Sanseverino dans cet accordéon-là, parce que vraiment ça lui va bien, ça lui parle bien ces mots.
Un grand ami aussi de mon père, et quelqu'un d'à la fois très très modeste, très généreux et tout à fait génial, hein, ce Sanseverino, ce Stéphane. Oui.
Alors le timbre donc de Dominique Kravik et bien sûr de Claire Elzière qui a chanté Lucky aussi, donc la famille, hein, c'est la famille, il y a toujours.
C'est la famille, c'est la famille Sarava des années 90-2000. Voilà.
Ouais, c'est quand même impressionnant, hein, tous ces artistes. Et puis en plus, j'ai vous rappelé dans ce livre qu'il y a eu des salles parisiennes qui ont accueilli des soirées Sarava dans les années 70-80. Enfin, ça devait être des événements assez, assez incroyables parce qu'on était hors de l'industrie aussi.
Ah ben là oui, les fameuses soirées Sarava du théâtre Mouffetard, hein, qui sont les plus importantes. Bon, il y a aussi le carré Sylvia Monfort, mais il y a eu une saison entière en 1973 au théâtre Mouffetard où les soirées commençaient. On savait quand elles commençaient, on ne savait pas quand elles terminaient. Et donc, et là, c'était le concept du non spectacle, hein, c'est-à-dire de l'outre spectacle. pour mon père à l'époque, c'était très important de réfléchir à une nouvelle forme de spectacle. Je pense que Brigitte Fontaine, qui était vraiment très, très intéressée par ces nouveaux concepts, l'a beaucoup influencé là-dessus. Et donc, il cherchait à décloisonner la relation du public à l'artiste. Et ça s'est passé. ça a eu lieu et c'est ainsi qu'on a pu. Moi j'étais tout petit, mais que Pierrack, Ellen Gage, Chick Sweetman, que des artistes célèbres, moins connus, amateurs, se sont croisés dans ce théâtre qui débordait quasiment jusqu'à la rue. Grande période, mais qui effectivement est arrivée quasiment vers la fin de la période faste de Sarava. Voilà.
Est-ce qu'il reste des témoignages sonores de ces soirées mouftards?
Tout à fait. Oh. Alors moi, je travaille énormément sur les archives. Oui. Et donc, d'ailleurs, dans le prochain mon prochain travail sur Pierre Barou, en novembre, il va y avoir deux nouveautés. À la suite de Pierre Barou, on n'arrête pas une chanson. C'est une compilation chanson choisie, un double album, avec notamment des versions inédites à Mouffetard, mais aussi en Belgique, à Spa. Donc là, j'ai vraiment choisi, j'ai trié, mais je pourrais en révéler beaucoup plus sur le site Sarava. Il faut que je trouve le moyen, si vous voulez, de libérer toutes ces archives, en sachant que le disque se casse la figure et c'est ainsi. Donc il faut trouver des façons que le public puisse quand même écouter ces archives, et on y travaille. Voilà, donc prochainement, je dirais qu'on pourra avoir accès à énormément de ressources. Sur ces années-là, que ce soit la première soirée Sarava au Théâtre 140 à Bruxelles avec Baden Powell et Pierre Barou, ou les fameuses soirées Mouffetard, Jean-Roger Cossimon, Majoun, David McNeil et Jack Trees, ainsi que Pierre Barou, ma mère, Dominique Barou. La deuxième grande surprise du mois de novembre, ça va être l'apparition chez Segers dans la collection Poésie des œuvres officielles de Pierre Barou, donc les chansons naturelles, c'est ainsi que j'ai nommé ce livre. Donc ça va être très important aussi. Voilà.
Ben voilà des très très bonnes nouvelles, vraiment. Alors là, nous avons donc disponible en librairie, disponible partout, publié aux éditions Le Bord de l'Eau. Avec cette collection, je rappelle ce nom de collection, Le Miroir aux chansons, ça me plaît beaucoup, dirigé par l'incroyable Jean-Paul Liégeois, qu'il faut vraiment saluer. Pierre Barou, On n'arrête pas une chanson, chanson et poème inédit, 1950-1999. Alors j'ai lu deux dates, hein. J'ai lu 1950-1965, et puis là, ça s'est rajouté jusqu'en 1999, parce que vous êtes un explorateur, Benjamin, là, vous découvrez sans arrêt.
Le livre, le sous-titre est clair, hein, c'est 1950-1999.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle une anthologie. Alors c'est vous qui avez fait le choix, Benjamin, de tous ces textes retrouvés.
C'est un choix qui m'a pris énormément de temps. Comme vous le disiez tout à l'heure, mon père n'aimait pas les cahiers. Il boudait les cahiers, sans doute parce qu'il avait quitté l'école. Hein. Sa scolarité ayant été un peu compliquée pendant la Seconde Guerre mondiale, étant enfant juif, il était hors de l'école, on va dire. Et il en a gardé, en tous les cas, une aversion du cahier, et par contre, une passion de la feuille libre. Quand je dis feuille, comme on l'a compris, c'est tout support. Alors, comme il écrivait quand ça lui venait par la tête, j'ai dû reconstituer parfois des chansons sur plusieurs années de brouillon et dans plusieurs niches. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'était un véritable puzzle. Hein, parfois, pour reconstituer une chanson, ça a pu me prendre des fois 2-3 ans, et avec la chance de tomber sur un papier qui normalement était voué à la poubelle, et que je retrouve par hasard dans un dossier de facture ou au fond d'un carton. Donc c'était très, très intéressant comme travail. Et effectivement, avec Jean-Paul, on a décidé de construire ça en 4 chapitres. Bon, c'est moi qui ai trouvé les chapitres, et avec son conseil, chaque chapitre est ouvert par un texte d'un auteur d'aujourd'hui, donc que ce soit l'artiste Voyou, que ce soit Philippe Catherine, Arthur Age, bien sûr, Émilie Loiseau, Philippe Powell, ont tous contribué, et bien sûr Stéphane Sanseverino, j'allais l'oublier, ont tous gentiment écrit des petits textes d'introduction à chaque chapitre.
Il y a aussi un très beau texte de
d'un certain Higelin également, Arthur Ashe aussi.
Arthur Ashe, la préface de Claude Lelouch, évidemment c'était naturel. Tout ce que je voudrais rajouter, c'est que dans ce livre, qui comporte 95 textes inédits, il y en a déjà une quinzaine qui ont été mis en musique. Ça, c'est un travail pour moi d'éditeur très important, avec ces textes n'avaient pas été édités. Non seulement ils le sont, mais ils sont mis en musique, donc des nouvelles chansons sont en train de venir à la surface. Alors je pense bien sûr à Didier Sustrac qui a écrit des très beaux titres, mais bien sûr Éric Guiton qui était très proche de mon père, et d'autres qui s'y collent. Et donc vous aurez sans doute, vous, je parle des auditeurs, la surprise de découvrir des nouvelles chansons sorties des archives.
Encore une très très bonne nouvelle. Alors j'ai relevé une phrase qui m'a beaucoup plu. Vous parlez de votre père en disant que c'était un graphomane multiple, comme un tisserand à l'ouvrage sur plusieurs fuseaux produisant simultanément différents fils. Voilà, j'ai trouvé cette phrase très 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 belle, et puis surtout qui correspond forcément à une vérité. Et en plus, voilà, vous avez été témoin certainement de voir votre père qui était un peu partout dans son monde. Hein. Il était dans son monde, votre père aussi. C'était un monde poétique, un monde de mouvement. Et donc, il y a quatre chapitres, écriture en mouvement, d'un rêve à l'autre, de l'amour et merveille cachée. Voilà, ce sont les quatre grands chapitres qui composent ce livre. Pierre Barou, On n'arrête pas une chanson, chansons et poèmes inédits, 1950-1999, anthologie établie par Benjamin Barou, que nous avons en ce moment en direct au téléphone. Et en tout cas, merci infiniment, Benjamin. Et puis, j'étais ravi de découvrir en scène Maya Barou, qui a fait sensation l'autre jour dans une salle archi-pleine pour ce documentaire extraordinaire. Est-ce qu'il va ressortir donc avec les sous-titres, hein, c'est ça, c'est prévu?
Alors, le film Sarava est sorti en salle en 2024. C'était une première dans la mesure où ce film réalisé en 1970 n'avait jamais eu d'exploitation en salle. Donc c'est un film qu'on a fait restaurer et que le distributeur Arizona a eu la bonne idée, enfin que j'ai contacté, a eu la bonne idée de sortir en salle, et ça a très bien marché. Donc, et de temps en temps, des projections, car c'est un film qui touche beaucoup de monde, des projections sont organisées dans des festivals ou des lieux culturels. Mais il n'est plus diffusé en salle régulièrement. Et Maya était accompagnée par Fixie, son compagnon, son compagnon étant un très grand accordéoniste. Maya étant non seulement une grande flûtiste, mais une chanteuse et une artiste complète. Et leur duo, enfin, ils étaient d'ailleurs accompagnés par un batteur qui est le frère de Fixie, mais leur trio, donc, était vraiment formidable. Je suis très, très fan et très heureux qu'il y ait eu cette explosion de musique vivante après le film qui, justement, rend hommage à la musique vivante.
Merci Benjamin, on va écouter Didier Sustrac. Voilà, on a normalement deux titres, j'ai encore un tout petit peu de temps, heureusement aujourd'hui, tout petit peu, donc on va pouvoir écouter les deux à la suite. C'est tout ce qu'on pourra faire aujourd'hui, parce qu'on voulait vous donner la parole en priorité. Nicolas Choquet a diffusé Pollen, donc j'étais déjà hyper content, et puis donc voici Didier Sustrac.
Alors ce sont des maquettes, hein.
Voilà, mais moi je les ai écoutés, ça s'entend pas trop, hein. Rassurez-vous.
Oui, c'est une exclusivité, donc les auditeurs de Radio Libertaire sont chanceux. Voilà. Merci à vous.
Merci Benjamin Barou. Et,
merci Laurent, merci Nicolas.
Et à très bientôt pour la rentrée qui sera très riche. Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt.
En ce temps-là, pour un frisson, moi j'écrivais une chanson. Au gré du souffle qui naissait là, tout au fond de moi. Pour habiller de tant d'amour, de simples mots de tous les jours, moi j'y pensais pendant des jours. Pendant des mois, le temps de la guitare sous le bras, toujours au on le regrettera. On le regrettera. La vie bouscule tant de fois ce que l'on garde au fond de soi. Le temps qui casse, cassera tous les élans, toute la foi. Je veux les mettre en mes refrains jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Le temps qui passe, passera. Dieu sait ce qu'il me laissera. Le temps de la guitare sous le bras, toujours on le regrettera. On le regrettera. Ce temps-là, pour un frisson, moi j'écrivais une chanson. Au gré du souffle qui naissait là, tout au fond de moi. Le temps de la guitare sous le bras, toujours on le regrettera. On le regrettera. Le temps de la guitare sous le bras. Si d'aventure mes joies étaient de bon augure,
j'ai tout écarté devant moi, au diable soucis et tracas. J'ai tout écarté devant moi, j'ai pris mes chansons sous mon bras. Des propos sages, des bons ou des mauvais présages, sans me soucier si de pécune me comblerait d'âme fortune. J'ai tout écarté devant moi, au diable soucis et tracas. J'ai tout écarté devant moi, j'ai pris mes chansons sous mon bras. Et tant pis si mes rêves de gloire s'évanouissent en fumée. Tant pis, car toujours je pourrais chanter. Mais j'ai tout écarté devant moi, au diable soucis et tracas. J'ai tout écarté devant moi, j'ai pris mes chansons sous mon bras. J'ai tout écarté devant moi, au diable soucis et tracas.
j'ai tout écarté devant moi. J'ai pris mes chansons sous mon bras.
Radio Libertaire 89,4 MHz, ça c'était deux inédits de maquettes en cours de préparation de Didier Sustrac sur des textes évidemment de Pierre Barou avec ce petit côté samba qui leur va si bien à l'un comme à l'autre. Dessous de scène pour encore 21 minutes, dans 21 minutes ce sera Bulle Noire avec une rediffusion consacrée à Joe Hamann, réalisateur, vous découvrirez ça, mais depuis tout à l'heure, il tient la queue du Mickey parce qu'il l'avait attrapé alors que ça tournait autour de la table. C'est Joël qui a des textes à nous livrer.
Oui, comme j'annonçais, j'ai un texte sur l'actuelle Coupe du Monde de football. Alors, ces derniers jours, la Coupe du Monde de football 2026, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis d'Amérique ou au Mexique, révèle sa véritable nature. Il ne s'agit pas tant d'un tournoi que d'une immense paroi élastique contre laquelle athlètes, arbitres et supporters sont condamnés à rebondir. C'est une Coupe du Monde qui semble conçue davantage pour exclure que pour célébrer ce sport. Certains sont arrivés en retard parce que leurs visas ont été bloqués pendant plusieurs jours, comme le footballeur suisse Mbolo. Certains ont été interrogés pendant près de 7 heures de leur arrivée aux États-Unis d'Amérique, comme l'attaquant irakien Ayman Hussein. Certains ont passé des jours entiers devant un consulat, à l'instar de la délégation iranienne, autorisée à entrer dans le pays uniquement pour la durée des matchs, alors que 15 de ses membres s'étaient vus refuser l'entrée sans possibilité de recours. Omar Abdulkadir Artan, un jeune arbitre distingué comme le meilleur d'Afrique, a été renvoyé alors qu'il était titulaire d'un passeport diplomatique. L'équipe ouzbek a été accueillie par des chaînes renifleurs de drogue et soumise à des contrôles intrusifs, filmés et diffusés partout. L'équipe nationale sud-africaine est arrivée de manière fragmentée, car une partie du groupe n'avait pas obtenu l'autorisation d'entrée. Le personnel sénégalais a été contraint de retirer ses chaussures et de subir des fouilles humiliantes, suscitant des accusations de discrimination. Et ce n'est pas tout. Les supporters écossais, titulaires d'une ESTA valide, ont vu leur autorité révoquée quelques jours seulement avant leur voyage. De nombreux supporters venus de divers pays ayaient déjà réglé leurs billets et leurs réservations d'hôtel. On essuyait un refus catégorique des visas, pendant si à la fois leur argent et leur rêve. Au Maroc, près d'une centaine de demandes ont été rejetées en bloc, soit environ 90% d'entre elles. Il ne s'agit pas d'une liste d'incidents isolés. Cela reflète l'atmosphère ambiante, une porte qui se renforme toujours dans le même sens. Le football devrait rassembler les gens, et non les trier en fonction de leur passeport, de la couleur de leur peau ou de leur lieu d'origine. Au lieu de cela, cette Coupe du Monde se transforme en un immense point de contrôle, un tournoi où l'épreuve la plus difficile consiste à pénétrer dans le pays hôte. Une Coupe du Monde de football née au milieu d'exclusion, d'humiliation et des barrières. À ce stade, la question n'est plus de savoir ce qui se passe, mais plutôt combien de temps sommes-nous prêts à accepter un spectacle qui oubliait l'essence même du sport? Le football appartient au monde et non à ceux qui décident qui peut entrer et qui ne le peut pas.
Comment tu vas? Ça va mal, pas très bien. Mais des fois quand ça revient, ça rava. Ça tousse un peu quand j'avale de travers. Et quand je vois ta rivière, ça va mieux. Mon nanana, et même si c'est pas vrai, dis que c'est moi le premier. Le premier humain qu'a posé sur ta lune, c'est demain ma brune. suis né le 3 juin 1954. Des femmes rongent leurs poings, leurs mecs allaient se battre. Java, cocu, les vainqueurs, les vaincus, s'éclatait en te pelotant le cul. J'ai 40 piges, j'ai la vie en plein centre. Viens verser tes vertiges, cadencer sur mon ventre. Viens ma négresse mélanger la cajou, mes deux mains, tes deux fesses et nos joues. Comme dit Privat, vous chargez la musette, et en une heure vous êtes à Java. Java, j'irai d'un petit paquet de chansons, avec les mêmes frissons que j'avais. Sauve Galliano, l'accordéon sans tricher, le piano du riche. Je refais mon trou sans remords, sans aigreur, à barreau d'honneur. Java, j'attends, en 2054, on brûlera nos 100 ans et nos disques compacts, et nos rejetons recoudront les boutons d'Orveston et de nos accordéons. En attendant, quand ça revient, ça rabat, on peut perdre son temps à tresser des javas. Viens, ma négresse, mélanger la cajou, nos deux mains, tes deux fesses et nos joues.
De, comme une feuille de notre discussion de tout à l'heure, la Java Sarava de Pierre Barou, mise en musique par Richard Galliano sur l'album Voce a Mano. Richard Galliano avec deux L et Alain Leprest déjà avec deux L à Alain et une L de plus dans le dos à Leprest, comme un grand albatros qui avait du mal à s'envoler. Dessous de scène, je lance le dé pour savoir qui cause Same Player Shoots Again.
Mon deuxième texte, c'est un article écrit dans le journal Il Manifesto, journal italien, et c'est un article sur les 250 années de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, que c'est aujourd'hui, 4 juillet 2026. Alors, aujourd'hui marque le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de la Grande-Bretagne, à la suite de la révolution américaine menée par George Washington sous la bannière de la démocratie. Mais quelle est réellement la démocratie américaine aujourd'hui? Aux États-Unis d'Amérique, le droit de vote est restreint par une combinaison de mesures judiciaires, législatives et exécutives, ainsi que par des actes d'intimidation. Tout cela survient alors que les Américains sont appelés à renouveler les congrès lors d'élections de mi-mandat de novembre. Le 29 avril, la Cour suprême a vidé de sa substance le Voting Rights Act, loi sur le droit de vote, texte adopté en 1965, à la suite d'événements du pont de la Selma, où la police de l'Alabama avait frappé au coup des matraques des manifestantes afro-américaines réclament les droits de vote. Cette loi visant à démanteler les systèmes d'obstacles, tests d'alphabétisation, taxes électorales et intimidation, par lesquels l'État du Sud avoyant, dans les faits, empêchait les Noirs d'accéder aux urnes pendant près d'un siècle après la guerre de sécession. Son article du interdisant toute pratique électorale discriminatoire fondée sur la race et permettait au fil des décennies de contester les découpages électoraux conçus pour de lui les votes des minorités. Dans une décision adoptée par 6 voix contre 3, dans l'affaire Louisiana versus Kellys, les juges conservateurs ont statué que les États pouvant désormais justifier leur découpage et invoquer le découpage électoral à des fins partisans, gerrymandering politique. même lorsque ces pratiques coïncident concrètement avec une discrimination raciale. Dans son opinion dissidente, la juge Elena Kagan a écrit que l'article du est désormais pratiquement lettre morte. Les conséquences ont été immédiates. La Floride a déjà entamé une session extraordinaire pour redécouper les circonscriptions électorales et offrir aux républicains 4 sièges supplémentaires. Le Tennessee cherche à éliminer le seul représentant démocrate resté de sa délégation. En Georgie, où le juge fédéral avait ordonné en 2023 la correction des cartes électorales diluant le vote des Afro-Américains, ces mesures correctives ont désormais été, en pratique, annulées. Selon une analyse de Fair Fight et du Black Voters Matter Fund, ce changement pourrait faire disparaître 26 circonscriptions à majorité noire ou hispanique et coûter aux démocrates jusqu'à 26 dans les législatures des États ainsi que 2 de leurs 5 sièges au Congrès. Toutefois, cette décision de justice n'est que la dernière étape d'une offensive menée sur plusieurs fronts. Le 31 mars, Trump a signé un décret visant à restreindre les votes par correspondance et à créer un fichier national d'électeurs éligibles. 23 procureurs généraux ont contesté ces mesures et les tribunaux leur ont donné raison, tout comme il l'avait fait pour un décret similaire en 2025. Sur le plan législatif, le projet de loi Save America Act impose la présentation d'un preuve documentaire de citoyenneté pour s'inscrire sur les listes électorales, comme un passeport, un acte de naissance ou des papiers de naturalisation. Or, plus de 21 millions d'Américains ne disposent pas facilement de tels documents. La communauté afro-américaine était surprésentée au sein de ce groupe. Le texte a été adopté par la Chambre des représentants, mais s'est heurté au blocage au Sénat. Néanmoins, les gouverneurs de Floride, du Mississippi, de l'Utah, du Tennessee et du Dakota du Sud ont déjà signé des versions de ces mêmes mesures à l'échelle de leur État respectif. L'expérience a déjà été tentée. Au Kansas, un lieu similaire était vigoureux depuis des années. 38 000 citoyens américains, soit 12% des demandeurs, ont été exclus, alors que les non-citoyens inscrits sur les listes ne représentaient que le 0,002% du total. À cela s'ajoute la menace d'une présence de l'ICE, Immigration and Customs Enforcement, au bureau de vote. Une menace formulée de manière suffisamment explicite pour susciter la peur, mais assez ambiguë pour éviter toute conséquence juridique. Dans le Minnesota, où l'agence a mené certaines de ses opérations les plus agressives ces derniers mois, la simple présence d'agents dans des quartiers à forte population immigrée a déjà produit l'effet escompté. Les communautés se replient sur elles-mêmes et des citoyens ayant le droit de vote commençant à se demander si le jeu en vaut la chandelle, d'autant que l'ICE n'a pas cessé l'arrestation, mais a simplement opté pour des interventions moins médiatisées. Au moins une nuit, États dirigés par des démocrates ont déjà présenté des projets de loi visant à tenir les agents fédéraux à l'écart des bureaux de vote, et Philadelphie a adopté un ensemble de cette mesure baptisée ICE Out, interdisant à l'agence d'opérer sur les propriétés municipales. Reste toutefois à savoir si ces initiatives suffiront. La démocratie américaine n'est pas démantelée d'une seule coupe. Elle s'érode circonscription par circonscription. Voilà. Règle par règle et document par document. Des documents qui font défaut à certaines personnes et qu'elles ne parviennent pas à obtenir à temps.
Merci.
Thank you. rêve les yeux ouverts, et ceux qui vivent les yeux fermés, ceux pour qui tout va tout à l'envers, jamais le cœur abîmé, résigné, si quelques paumés de l'univers, au cabaret de la dernière chance, se retrouve autour d'un dernier verre, viens prendre un air d'insouciance et danse. Quelques paumés de l'univers, au cabaret de la dernière chance, se retrouve autour d'un dernier verre, viens prendre un air d'insouciance et danse. Il y a ceux qui rêvent les yeux ouverts, et ceux qui vivent les yeux fermés, pour qui tout va tout à l'envers, jamais le cœur abîmé, résigné, si quelques paumés de l'univers, au cabaret de la dernière chance, se retrouve autour d'un dernier verre, bien prendre un air d'insouciance et de.
Le cabaret de la dernière chance, Pierre Barou, Anita Valero, interprétation Yves Montand, et je crois, il me semble que la dernière émission que Pierre Barou avait faite en radio, c'était avec les deux Bernard sur l'antenne de Radio Libertaire dans le cadre de Ça urge au bout de la Seine. On va conclure cette émission avec nos derniers textes en précisant que les cadeaux d'Evelyne et Jean-Marie, ça sera pour la semaine prochaine.
Ce sera des pensées.
De Pierre Perret. Au royaume des aveugles, je suis un bon boxeur. Mieux vaut aller au coiffeur que chez le psychiatre. À force de prétendre que l'envers vaut l'endroit, j'en connais qui auront des surprises. Il est surpris comme un douanier qui vient de lire les pensées de Pascal. Il faut toujours frapper un homme à terre avant qu'il ne se relève. Il vaut mieux dire du bien de sa valise que de la malle du voisin. L'occasion fait le lardon. Il ne faut jurer de rien, ni cracher, c'est pas propre. Il ne faut jamais dire fontaine, il faut dire patron, un muscadet. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, surtout si vous possédez un tracteur. Il ne faut jamais parler de cordes dans la maison d'un type qui ne s'est pas encore pendu. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort, il vous demandera à bouffer.
Ah, Ariel, tu n'as pas
un texte dernier, mais trop long. Et trop long mon texte.
Ah,
ça pour samedi prochain.
Eh ben, samedi prochain d'ailleurs, on a qui autour de la table?
Samedi prochain.
Ah, samedi prochain. Ah bah le 11. C'est bien le 11, oui. Eh bien, nous avons une interprète là, je suis un peu interloqué. Nous avons une artiste qui a enregistré des comptines et des berceuses à la fois du Vietnam, du Laos. Et également même, elle chante aussi en bambara. Et je suis en train même de rechercher son nom, parce que là, tu m'as pris tellement de cours.
Alors qu'en plus, elle est venue dans ce studio déjà, invitée par Evelyne.
Elle est déjà venue, mais là, je suis un peu ailleurs. Il faut même que je retrouve son nom. C'est la petite panne. Je suis en train de chercher.
Et autour de la table,
oui, je suis en train de chercher son nom. Alors qu'on s'appelle tous les... je vais le retrouver là, Je vais le retrouver parce que Jeanne Varaite, bien sûr, Jeanne Varaite, et qui est une franco-vietnamienne. Son nom, c'est Varaite, qui veut dire vérité, et c'est un nom qui vient de l'Alsace. Et elle est née au Laos de parents vietnamiens. Jeanne Varaite, que je recevrai pour ce très très bel album qu'elle a produit et conçu elle-même.
Ariel, tu seras là?
Papa et moi, nous serons là. Oui, par contre, Joëlle ne pourra pas venir parce qu'il sera...
En stage.
Il terminera sa formation théorique BAFA.
Et puis...
ça inclut le samedi et le dimanche.
Et puis les semaines suivantes, eh bien on retrouvera des invités théâtre proposés par Evelyne, Moa et Anne. On espère à la rentrée avoir le retour de Michel et de Sophie avec des textes. Et donc on se retrouve comme je l'ai dit la semaine prochaine. Et maintenant, on va partir en compagnie de Bulle Noire et c'est une rediffusion. Je vous laisse découvrir. On va parler de Joe Hamann. Enfin, on va parler. C'est pas moi qui vais parler. C'est Stéphane, c'est Alain Schuster, tiens, qui sera en invité pour une fois, et d'autres intervenants. Allez, Bulle Noire, c'est parti.
T'as bien capté Bulle Noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs.
T'as bien capté Bulle Noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h,
baby.
Faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters. De calibre 44,
baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Sur l'écran apparaît un visage au regard insoutenable. On reste comme fasciné, figé.
l'homme inspire la terreur, presque l'épouvante. D'abord, on voudrait pouvoir s'enfuir, échapper à l'apparition menaçante. Puis l'image s'éloigne, se confond dans un ensemble étonnant. Il devient clair alors que ce visage est celui d'un cavalier. Et quel cavalier ! Et quel cheval ! En un mot, quel ensemble ! N'était son chapeau de cow-boy, on jurerait d'un centaure. Hommes et bêtes n'en font qu'un. Peut-être n'a-t-il jamais paru sur notre continent un cavalier aussi prodigieux. Tranchons le mot. À cheval, ce phénomène est un virtuose. Mais que fait-il ? Quel démon l'anime ? Les images succèdent aux images. À mesure, le personnage soulève des cris, des explosions de colère, des vagues de huées. Ce cavalier n'est donc qu'un odieux ravisseur. Ah, certes, un ravisseur d'une souplesse athlétique, d'une maestria hors pair. Mais enfin, un ravisseur. Il empoigne l'innocente jeune fille, la hisse sur sa selle, l'étreint vigoureusement, l'emporte. La colère de l'assistance redouble, principalement chez les jeunes. Il se crispe, serre les poings, s'exaspère d'être impuissant à poursuivre cet infâme bandit. Ah ! Lui courir sus, délivrer la jeune fille, sa victime, et le rosser, lui !
Lui, c'est Joey Hamann. Parmi les jeunes de ce temps-là, qui se mourait de lui faire endurer sans torture afin de le punir. Il y avait celui qui écrit ces lignes. N'y eut-il pas aussi tel spectateur qui a guetté la sortie de Joe Hamann et lui a déclaré franchement qu'il entendait lui régler son compte ? Car incommensurable est la force d'illusion.